te chante la mer. Dire stop.
Tu sais,
c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qui abandonne son kleps au mois d'août en Espagne. Chant comme un vide, remets-moi Johnny Kid. Oh, Gabi, tu devrais pas me laisser la nuit. Je peux pas dormir, je fais des conneries.
Bonsoir mesdames et messieurs, dans quelques instants vous allez voir et entendre Ça c'est l'info, votre journal de 20h, exactement semblable à celui d'hier et à celui de demain. Si les sujets originaux ne nous sont pas parvenus à temps, soit nous invoquerons la pudeur et la réserve, soit nous diffuserons des images d'archives. Envoyez l'horreur, envoyez la banalité, top chrono.
Oui, top chrono.
Mabogo mena yoto Mena rekneto yetembe yem mame.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio sans dionymètre de la Fédération Anarchiste et Orbi comme Urbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Voici une quinzaine de jours sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Nous avions reçu Claude Brabant et sa revue Empreinte, et où il y avait tout un passage, un chapitre consacré à Peter Arthur Kezens, qui était crieur de la ville de Courtrai en Belgique. Il avait également une formation de bibliothécaire. Il a voulu sauver de la destruction les livres qui étaient mis au rebut par les bibliothèques. Il a fondé dans ce but la bibliothèque Tout Sauf Idéal, qu'il avait installée à l'intérieur de sa maison. Il a récupéré pendant des années tellement de livres qu'il a été obligé d'acheter la maison d'à côté pour pouvoir les accueillir. Les derniers temps, plus personne n'entrait chez lui car c'était si encombré de livres qu'on ne pouvait pas circuler. Dans la nuit du 2 mars 2020, un incendie s'est déclaré. Il a brûlé ses livres. Il était âgé de 58 ans. Ceci est extrait d'Empreinte numéro 42. Donc, voici quelques années à Cordes-sur-Ciel, par l'intermédiaire de Paul Sanda, avec la voix, bah oui, de Peter Arthur-Kessens, de Christophe Brunel et d'Anne Létoré. Il y a eu un enregistrement qui a été fait. C'est très, très intéressant. Surtout, vous allez entendre ça. Cette sonate de la fin du monde en guise de conclusion. Donc on est bien sur Radio Liberté 89.4.
C'est bien, Feu de Brest, Paul Sanda, on est bien dans les studios Cordet, je suis avec une joyeuse bande de nordiques, Christophe Brunel, Anne Létoré, Peter Arthur Kezens. Ah, Kezens. Alors, ils ont des consonances belges et ils reviennent tout de suite pour vous parler de crieurs et de vociférations. Bonsoir à tous, vous êtes bien à Cordes et on est toujours dans cette fameuse émission qui fait défait les carrières à loisir de tous les artistes qui passent ici. Ce soir, donc, une joyeuse bande de Dri qui sont à la maison du surréaliste en résidence et qui vont nous parler d'un métier en voie de disparition et puis qui nous feront des démonstrations. Donc ce métier, c'est crieur. Je crois que, je suis pas sûr, mais il doit plus en avoir beaucoup en France. Quelqu'un nous a dit ce midi qu'il y en aurait eu à l'île de Ré il n'y a pas si longtemps, mais dans les années 70. Peut-être que vous êtes au courant de ça, les uns et les autres. Alors, je vais commencer peut-être à donner la parole à Anne pour nous expliquer, à Anne Létoré, pour nous expliquer un peu ce que c'est le crieur. Allez.
Bien. Alors, les crieurs, au Moyen-Âge, avaient plusieurs fonctions et même plusieurs vocables. C'était essentiellement la personne qui faisait la publicité des nouvelles et des choses à vendre dans les rues. Ou alors, lors des ventes aux enchères, c'était l'homme qui relayait le commissaire-priseur en arpentant l'estrade, interpellant l'assistance, relançant l'enchérisseur hésitant.
Quand tu dis au Moyen-Âge, mais précisément où ça? Alors, dans le nord de la France?
Non, en France.
En France.
En France, sur Paris, enfin essentiellement sur les grandes villes. Mais même après, on les retrouve dans les villages avant 14.
On a des traces de ça. Enfin, il y a des écrits sur le sujet où des enquêtes qu'on a faites.
Il y a des écrits. Il y a un livre qui est sorti sur les bruits et les sons de la ville. On trouve traces des crieurs. À vrai dire, j'en ai trouvé très peu. Très peu, parce que, tout du moins en France, ça a glissé vers le garde champêtre, Donc ça a glissé vers une autre fonction. Et puis après, il y a les médias qui ont pris le relais.
Ouais, donc le crieur,
crieur était titré normalement à une ville. Il était titré aussi à une fonction. Donc j'ai trouvé plusieurs fonctions chez le crieur. Mais surtout, c'est plus la Flandre dans le nord de la France, et puisqu'on trouve encore des crieurs officiels.
C'est pour ça qu'il y a Peter, il va en parler après un peu de sa charge.
Voilà, il en parlera un petit peu plus. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, en France, on n'a plus ce métier de crieur. On n'a plus de voix, on a...
En tout cas, officiel, comme ça. Quoi.
Officiel.
Ouais. Il reste quoi ? Non, oui, il n'y a personne. Parce que le garde champêtre, il ne joue pas du tout ce rôle-là. Hein.
Non, après, c'est l'animateur de l'association, ouais. C'est le l'adjoint au maire.
Le type qui va dans les supermarchés avec un...
L'animateur. À la limite, c'est ça, l'animateur du supermarché. Quand tu as une fête, celui qui est sur l'estrade pour annoncer tel artiste ou telle festivité... Mais il n'a pas non plus le folklore du crieur. Bon, Peter est avec un vêtement, avec une casquette, avec une cloche. On parlait de garde champêtre. Bon, il y a le tambour, il y a la trompette aussi. Il n'y a pas forcément que la cloche. Ça prend les sons aussi. Ça prend les instruments avant, la main, la bouche, et la voix, surtout la voix.
Alors, avant de continuer, que tu nous donnes toutes les autres attributions du crieur que tu as trouvées, on va déjà une première fois demander un peu à Peter de nous expliquer alors, d'où il vient, il est crieur pour qui et pourquoi.
Je peux peut-être ajouter quelque chose historiquement.
Au contraire.
Il y avait une crieur à Carcassonne en 14e siècle, oui, parce que je suis très intéressé dans les histoires de Qatar. Et à un certain moment, il fait une annonce qu'on doit chercher quelques Qatars.
Ça veut dire que c'est un crieur qui a été utilisé par l'Inquisition, par un pouvoir. Pour faire appel finalement au public à trouver les cathares.
C'est ça.
Oui. Ça c'est moi, mais c'est bien parce que ça se rapporte un peu à la région. Alors mais toi tu es pas crieur à Carcassonne, hein.
Ça s'entend. Je suis crieur public de la ville de Courtrai, et j'ai deux fonctions. C'est d'abord une fonction d'annonce des fêtes, des expositions, des concerts et autres choses. Et le deuxième fonction est une fonction de cérémonie, mais pas toujours sérieux. Hein. On peut me demander pour jouer agent provocateur aussi. Hein. Donc j'arrive, par exemple... sur une fête de jubilé, il y a seulement un oncle fou qui a me demandé. j'entre et je sonne avec ma cloche et je crie que mes voeux vers les personnes qui ont besoin de ça. Et c'est très émouvant pour cette personne.
Une surprise totale.
C'est une surprise totale, hein, aussi pour toute la famille. Et je fais aussi ça. Hein.
Est-ce que le crieur est forcément drôle ?
Pas tellement, mais...
Il n'est pas drôle du tout.
Il y a des crieurs qui prennent leur fonction très sérieux. et moi aussi, pas toujours. Si on me demande pour faire des choses drôles, je suis toujours candidat.
Et des choses pas drôles aussi, alors finalement.
Ah oui, oui, oui.
Alors c'est quoi les choses sérieuses pas. C'est annoncer la liste de la liste
par exemple,
des candidats aux élections.
On m'a démenti par le gouvernement flamand. Il y a un système fédéralisme en Belgique, et le gouvernement flamand a me demandé pour annoncer, il y a des sessions pour obtenir de l'information ou pour
plainte. Donner plainte pour
donner plainte vers l'administration. Donc, j'ai fait...
Alors, tu es rentré dans un bureau et tu cries. Tu portes plainte directement.
Non, non. Je fais un tour dans la ville avec des dépliants et j'annonce que le fonctionnaire qui accepte les plaintes est là en ce moment. Donc, c'est très sérieux, ça.
Le crieur, c'est toujours une fonction publique. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait un public. Tu transmets pas des messages à un individu précis. Si, ça peut arriver. Non, en général, c'est toujours un appel à la population.
Peut-être un petit public.
Oui, ça peut être un petit public, ouais.
Oui. Mais...
Alors, c'est une charge de père en fils. On a ça, on obtient
non,
ça
non,
depuis
non,
la
non,
nuit des temps,
non,
comme
non.
ça.
Non, c'est très drôle, l'histoire, comme je suis... je suis déjà, pendant 20 ans, un performeur de l'art, avec de la danse et de la poésie. Et à un certain moment, il y avait une... compétition dans un petit village, Rollegem, c'est au sud de Courtrai. Parce que l'ancien crieur avait décédé. Et donc, je n'ai pas gagné cette compétition parce que on a dit que je suis le plus original, le plus humoriste, le plus. Il le compte, mais je manque quelque chose. Et à ce moment, pour le jury, j'ai manqué d'être populaire, d'être populiste. Donc, j'étais trop avant-gardiste pour eux, peut-être. Et, mais le problème était que la personne qui était élue, il n'avait pas de l'intérêt pour faire ça toute sa vie. Et après 3 ans, il a dit il fait. Il veut arrêter avec ça. Il a dit c'est dommage pour faire une autre compétition parce qu'il n'y a pas de candidat sérieux. On doit prendre les candidats au comptoir de café. Il a dit il y a seulement un candidat sérieux parce que au départ de cette période, je suis demandé plusieurs fois par des organisations à Courtrai et aussi à Lille, donc j'avais aussi des expériences bilingues avant pour moi que je, c'est très
oui, parce que
c'est dur mais
le crieur il doit parler dans plusieurs langues, il faut c'est obligé.
Mais
ça
je crois dans notre région c'est important parce que il y a beaucoup de personnes francophones et aussi anglophones, donc c'est important pour parler d'autres langues, mais normalement ce n'est pas nécessaire. Mais pour moi ma situation, je crois bien. Et j'ai beaucoup de l'ambition. Je suis candidat de devenir le crieur public de l'île métropole transfrontalière. Donc, c'est une région dans les deux pays, donc de Armentières jusqu'à Warham et de Roulé-Ypres jusqu'à Tournai. Et je sais, il y a encore des crieurs dans les petits villages au milieu, mais ce n'est pas un problème, je les annexe, comme les Fasal.
Anne, alors, bon, on entendait un peu Peter, là, il parle de l'intérieur, lui. Hein. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi aboyeur, là, dans les caractéristiques du crieur. Ouais. Qu'est-ce que c'est aboyeur ?
Alors, un aboyeur est un crieur qui, à la porte des spectacles, appelle les voitures à cheval et avertit les maîtres de leur arrivée.
Alors, il fait ça comment ? Il s'est fait aboyeur, Peter, tu
sais ? Ah oui, j'ai fait ça.
Tu fais un peu
aboyeur à Lille.
Tu nous fais voir ?
Il y a une petite anecdote, qu'à un certain moment, un couple arrive et je demande à ce couple, c'est monsieur, il dit, c'est monsieur Dubois, et j'annonce... Monsieur et Madame Dubois. Et la dame dit, je ne suis pas avec lui.
Ouais, non, ça peut avoir des inconvénients, aboyeur.
Alors ça, c'est exactement la définition du huissier de soirée.
Voilà. Ah oui, huissier de soirée, ça. Voilà, d'accord, c'est ça.
C'est-à-dire, tu annonces les noms et qualités des personnes entrantes.
Ah oui, donc, monsieur le comte de machin, voilà. Mais c'est des soirées quoi ? Tu fais ça dans les soirées UP ? Des réceptions ?
Oui.
Des mariages ?
Oui, peut-être. Tout est possible.
Tout des enterrements, quoi.
Des enterrements, voilà.
Les enterrements, nous avons le juré crieur.
Ah voilà.
C'est l'entrepreneur de pompes funèbres qui fournissait les décorations sépulcrales, manteaux noirs, draps, on est bien dans la région, velours et tentures dont on tapissait la maison du défunt.
Alors tu ne fais pas ça là quand même. Tu,
non,
tu
ça n'existe plus du
ça
tout.
Ça n'existe plus.
Ouais.
Mais je suis candidat. Mais...
Alors ça va plaire à Peter, le crieur de vin.
Ah, crieur de vin, c'est pas
voilà,
mal.
Voilà, au Moyen-Âge, personne qui, dans une taverne, était chargée de veiller à la consommation du vin et d'en faire la publicité.
Ah, c'est bon, alors tu fais la publicité du vin
Ah, j'ai fait ça à Villeneuve-d'Ascq une fois, et j'ai dit... Mesdames, je vois que vos bouquets sont en plein fleur, donc il faut arroser cette bourgeon castille avec du vin. À mon commandement, buvez.
Ça a été suivi d'un grand silence.
Ah oui, sûrement. Ouais, sûrement.
C'est pas gens... le style de là. Hein.
Oui, ça, puis en ouais. plus, là, là où on était, c'était
c'est,
pas c'est le style de la
maison.
C'est
des régions un peu coincées.
Un petit peu.
Un peu, voilà.
C'est une rénovation. Hein.
Affoireur, j'ai vu l'affoireur.
Affoireur, c'est un crieur public. La foire.
Ah oui, 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 d'accord.
Et bon, le dernier crieur, le crieur de vieux fer, c'est un ferrailleur, appelé également dépeceur de carrosses.
Ah mais alors, on entendait les rémouleurs, il n'y a pas si longtemps, qui passaient dans les rues, qui gueulaient, enfin qui aboyaient, je ne sais pas, qui criaient. Oui, oui, couteaux, ciseaux, etc. Ça ressemble un peu, ah oui, ferraille, récupérateur de ferraille en fait. Voilà. Tu fais ça aussi Non.
J'ai jamais fait
personne
ça.
T'a dit de ramasser la ferraille dans les vieux quartiers.
Les sous, les pièces en ferraille.
Peut-être qu'il est candidat.
Hein. Ouais, il est sûrement candidat. Bon, on va faire une petite, un petit break. Faut quand même dire que, parce qu'après on va rattaquer, après le morceau de musique que je vais vous passer, en fait, je vais vous passer un morceau de Renaissance de Horacio Vecchi. Après, on va entendre une performance. Que tu as enregistré, donc toi, Peter, avec Christophe qui est là, lui qui n'est pas crieur en public, mais qui a un talent de voix certain, on appelle vociférateur ici, à la maison des surréalistes. Est-ce que vous pouvez nous présenter quand même le morceau qui viendra tout à l'heure, que vous avez interprété ?
C'est un poème avec des onomatopées, c'est écrit par Kurt Schwitters. Un dadaïste très connu, très important. Et il a écrit ça dans les années 20 et 30. Et j'ai fait une transcription pour deux voix. Donc, moi, si je suis la voix haut et Christophe est la voix bas. Enfin, ça, c'est le but. Hein? Et. Donc, c'est très plaisant. C'est dans une sorte de partition avec des symboles pas comme les notes, mais dans mon propre système. Ça va, oui.
Mais ce qui est spécial, c'est qu'on le fait à deux et que c'est écrit pour une personne. Et bon, là, il n'y a pas tout le poème qui est dedans, mais on a fait une transcription, surtout Peter au début, et on met des autres éléments qui font le truc un peu plus riche, parce que bon, il faut quand même réactualiser un peu ce qu'ils ont fait dans les années 20 et ce qui est très intéressant qu'il a fait. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que bon, il y a Kurt Schwitters qui a écrit ce poème là mais on a déjà fait un peu de recherche et on a vu chez Hülsenbeck et Hausmann deux autres dadaïstes,
Hugo Ball
aussi, qui avaient des phrases que Schwitters justement a employées dans son poème. Donc c'est quand même bien dans une période où tout le monde dit « Oui, ce machin-là, ça m'appartient, je veux de l'argent et tout. » Dans cette période-là, le dadaïste, c'était beaucoup mieux. C'était comme si, comme dans la période de Monteverdi, tout le monde piquait de tout le monde et tout le monde était content.
Sur ces bonnes paroles, Horacio Vecchi, et ensuite, après l'interprétation de Schwitters, on reviendra sur la vociférations.
Lesen ihren Ursonate oder die Sonate in Urlauten von Kurt Schwitters.
Yuka.
Die
fünf,
den till Yuka.
Rinse kete bebesen se kymio si o o en se si o
ra
rinse kymio
kete bebesen
si kete bebesen
rinse kete
Z-Y-X-W-F-U-T-S-R-Q-P-O-N-M-L-K-I-H-G-F-E-D-C-B
Z-Y-X-W-F-U-T-S-R-Q-P-O-N-M-L-K-I-H-G-F-E-D-C-B
Z-Y-X-W-F-U-T-S-R-Q-P-O-N-M-L-K-I-H-G-F-C-T-B Z-Y-X-W-F-U-T-S-R-Q-P-O-N-M-L-K-I-H-G-F-E-D-C-B
Panda, on s'est fait de braise. Ce que vous venez d'entendre, c'est la performance de notre ami Crière. Peter, j'aime mieux que ça soit lui qui dise bien son nom dans le micro, parce que c'est un nom flamand. Alors, Peter, dis bien ton nom.
Peter Arthur Cousins.
Voilà, et son partenaire qui dit son nom aussi.
Christophe Brunel.
Voilà, alors, ils ont fait cette performance donc, d'après ce texte d'Ada de Schwitters. Il a un titre, au fait, ce morceau.
Die Ursonate. Die Sonate in Urlauten.
Voilà, on dirait quoi en français, Christophe? La sonate.
La
quoi?
Sonate préhistorique. Ouais. Je sais pas, non. Ours, ça veut dire. L'original, l'origine, des origines quoi. Voilà. La sonate des origines.
Sonate des origines. C'est vrai que c'est, il y a un côté, une primitivité, puis on retrouve ça chez tous les vociférateurs, en fait ceux qui travaillent la voix, les performeurs cherchent beaucoup de choses dans le chamanisme ou la primitivité. Bon, on a parlé tout à l'heure avec Anne Le Tori qui est là des crieurs, de leur histoire. Peter a donné son avis sur le sujet en long et en large sur son métier. Bon, vous avez fait cette performance tous les deux. Est-ce que finalement c'est cette tendance à être à l'oralité tout le temps, c'est un plaisir intense, on le sent bien dans la jubilation, la manière dont vous transmettez les choses. Est-ce que ça vous empêche d'écrire, ou au contraire ça vous donne envie d'écrire, ou ça n'a aucun rapport, vous vous en foutez? Parce que c'est quand même une émission littéraire ici.
Oui, parce que Peter Cousins et moi, on écrit un poème sans fin aussi. Et
justement, c'est pour ça que
bah oui, parle. Et bon, là, on est plutôt dans la tradition rabelaisienne qui s'engouffre avec le dadaïsme et le surréalisme aussi. On écrit en plusieurs langues. On a des passages uniquement en français et anglais aussi. Et souvent, les textes sont faits plutôt spécifiquement pour être lus oralement, quoi. Mais quand on les lit comme ça, ça va aussi. Il y a plusieurs degrés de compréhension dans les textes. Ça peut être très loufoque, mais si on l'entend pour une deuxième fois dans une performance publique, ou si on lit, là, on sent la subtilité du texte, quoi. La recherche.
Pour en finir avec le crieur, est-ce qu'il y a des obligations liées à la charge? Est-ce qu'il y a des obligations liées à la charge du crieur, c'est-à-dire des choses que tu es obligé de faire vis-à-vis des institutions qui t'emploient?
À court trait.
Oui, à court trait.
Bah, maintenant, toutes les années, je fais la réception de nouvelle année, et je fais aussi des choses pour les deux événements concernant le patrimoine. Il y a le jour de le patrimoine des bâtiments et un autre jour de patrimoine mouvant. Et ça, ce sont les trois fois que je fais tous les années. Et il y a aussi les fêtes de folklore à Rollingham, parce que c'est à Rollingham on a élu moi comme crieur. Et là-bas, j'ai un rôle important, mais enfin, je suis aussi un peu d'adviseur artistique là-bas. Oui.
Demain, tu vas sans doute faire une performance vocale à cordes. J'espère bien qu'on va la mettre en boîte et qu'on la gardera. En attendant, de performance vocale, tu vas en faire une maintenant. Qui s'appelle. Tu peux donner le titre à cette lecture que tu as composée. C'est un texte que tu as composé toi-même, Peter.
Ah oui, le poème Café d'un Bierbon.
Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient?
Un Bierbon, c'est un mot. Patois en flamand, ça veut dire un ticket pour obtenir une bière.
Alors, ticket pour obtenir une bière, tous à la soupe, c'était Feu de Braise. On va vous envoyer ce bon pour la bière et à bientôt.
Café d'un bierbon. De la crapule, délibérez-nous. Les poseurs emplumés avec des haillons puants, casquettes penchées, pleines de graisse. Hoeten en klakken, laisse-moi parier. De veste crasseuse et chemise sordide. Jamais sobre dans la danse buvoise. l'année morveux, pris de vertige. Les yeux sanguins, pleins de Guinness. La gueule déformée et chlorotique, ou roussâtre, ou ragée de pourpre. Il y en a même un avec un front bosselé. Croyez-moi, ce sont des fouinards fourmillants, des voleurs de fretins cossons. Ne bêle pas que ce sont des contrebandiers de merde et de vomi. On dut une vie ardue, boiteuse et sciatique, ou qu'ils sont éreintés et harassés. De se saouler, je pense, boire et boiter dans un mouvement single, ou de rasser leur femme. Onzième commandement, bat ta mégère jusqu'à elle soit bleue. Ils ne parlent pas de sornettes ornementales dans ce mauvais lieu. Dévoreurs des bêtes blés qui se merdoient professionnellement. Ils ne chantent pas des hymnes grégoriens dans cette maison de tolérance. Les apôtres du crèchoir célèbrent la rite de l'animalité. Ils violent leur mégère grosse. Mais, oh là là, l'orgueil de la populace. Ils jurent, ils se vantent, ils bavardent, ils se blasphèment pendant qu'ils se déchiottent en public. Et oui, ça fait du bon plaisir pour la compagnie. Chier est un loisir comme les autres. C'est la bolchevisation de la merde. Les salopes dansent semi-nus. Et aujourd'hui, c'est la course cycliste annuelle. Ils avaient commencé de boire avec excès, 2 jours avant. Ça va encore pour s'extasier quelques mètres avec jambes faibles et une prostate gonflée qui couvre leur verger. Arthur Jackson-Nigo, ce sont des anges sataniques avec des anneaux qui sont tombés en eau. Sale boche, moffen, frisés, longs drollen, avec leur tête pleine de brouillard, gauloise ou Saint-Michel vert. Ah, ils ont raté l'arrivée, gagné par un unijambiste. Aucun problème. Tournée générale, donnez à chacun une bouteille de genièvre. Ça déglutit plus facile. Soulographe, unissez-vous. C'est la beuverie finale, la 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 la. C'est la bacchanale, la 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 la. Mais une poupe sortie, la 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 la.
Eh ben, on est bien sur Radio Libertaire 89.4 au 01 43 71 89 40 dans Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, c'est le cas de le dire. Eh ben, les voix, comme nous avons entendu là, sont celles de Peter Arthur Kissens, Christophe Brunel et Anne Lettore. Alors, je vais réitérer, hein, Peter Arthur est écrieur de la ville de Courtrai en Belgique. Il avait également une formation de bibliothécaire. Il a voulu sauver la destruction, les livres qui étaient mis au rebut par les bibliothèques. Il a fondé dans ce but la bibliothèque Tout Sauf Idéal, qu'il avait installée à l'intérieur de sa maison. Il a récupéré pendant des années tellement de livres qu'il a été obligé d'acheter la maison d'à côté pour pouvoir les accueillir. Les derniers temps, plus personne n'entrait chez lui car c'était si encombré de livres qu'on ne pouvait pas circuler. Dans la nuit du 2 mars 2020, un incendie s'est déclaré. Il a brûlé avec ses livres. Il était âgé de 58 ans. L'émission que vous avez entendue a été enregistrée voici quelques années à Cordes sur Ciel, et franchement, cette sonate des origines est inoubliable. Merci Peter Arthur.
Oh. kondo Sarah Bormisa Yanongo Busa Busu Taske Mwane Timut Mumute Mama Busa Le Akipa Bome Mwana Mema Isuku Shangwe Mshoshe Kele Tuat
Toujours avec la belle voix de Tita Nzebi, un nouveau générique donc de choc. On va changer un peu de registre. On va écouter Michel Bouquet dire Léo Ferré, lettre non postée, lettre à l'Angleterre. Écoutez, c'est superbe.
Lettre à l'Angleterre. Madame, quand j'étais enfant, vous me donniez l'impression d'être un vieux jupon. Un face à main, une tasse à thé emplie plusieurs fois vers les 5 heures après-midi avec sa cohorte de gâteaux spécifiques et dont il ne me reste qu'un mot farineux, plum pudding. Il faut vous dire que j'habitais alors dans une ville dont le syndicat d'initiative avait l'accent britannique tellement il vous était assujetti, et ce pour des raisons de change. Votre livre Sterling a chez nous un prestige que vous n'ignorez pas et dont vous tirez largement profit, ne serait-ce que par une sorte d'orgueil saisonnier. Dès que vous mettez le pied à Calais, vous vous croyez au Moyen-Âge. Je vous demande pardon, mais jusqu'en 1950, vous n'avez jamais été pour moi qu'une vieille dame fardée jusqu'au subconscient. Les yeux charbonneux, la bouche vaseuse, sinon experte, et le sac à main empli jusqu'au faîte et circonspect. Une fable courait la rue à ce moment-là. Il s'agissait d'une certaine Lady McCarthy qui avait trouvé le moyen de doubler ses conquêtes. Si je souligne le mot, c'est qu'il s'agit d'une figure de littérature qui, dans notre langue, nous sert à masquer l'évidence par une sorte de politesse voltairienne que vous appelleriez de l'humour anglais et que les grammairiens s'entêtent chez nous à nommer euphémisme. Quand je vous aurais dit que la lady en question allait sur ses 80 ans, qu'elle avait des gigolos, danseurs professionnels de préférence, qu'elle les conviait chez elle, à l'hôtel, après la gymnastique vespérale, vous diriez le thé dansant, vous m'ôterez tout scrupule. Et si j'accepte dès lors de vous faire grâce des guillemets, acceptez en retour que je m'en tienne à des artifices de style pour parler de cette vieille dame anglaise quand vous seriez en droit de penser maintenant qu'il s'agissait d'une vieille rombière sur leur tour. C'est étaillir en perlousé jusqu'à la garde. Je fais déjà un écart de langage, excusez-moi, mais non point une erreur d'observation. C'était là l'image unique que j'avais de votre fierté d'outre-monde. Et quoi ? Tant de graisse sous tant d'or, me disais-je. Tant de plis au coin de la bouche, tant de ventres ramenés à force de gaines à supplice, tant de dévotes onctions sur les bergères Louis XV défaites, livrées sous les assauts mercenaires du danseur mondain, et à genoux. Et sa crâne. Votre ambassadrice ne se donnait plus qu'assise, pendant qu'un forçat dans les soutes forçait. Une pudeur sénile, et dont elle ne mesurait pas l'incongruité, l'inclinait bientôt à prendre la tête de son signe, et l'enfouissant à nouveau vers les trésors ruisselants, elle lui murmurait avec l'accent « Mon enfant !» et vacillait. une jeune femme qui vacille, c'est parfois intenable. Une vieille dame qui s'en va comme ça dans l'écœurement d'un danseur italien, aspiré comme une moisissure, c'est... Comment dire ? Il faudrait inventer un mot et l'oublier aussitôt. L'intermède Louis XV terminé, le jeune homme partait, moustache fine et sèche, chevelure verglacée. Il partait, nanti de la moitié de son salaire, car c'était bien la condition de l'affaire. Pour le revoir et qu'il transcende sa nausée, la dame n'avait qu'un moyen, l'obliger à retourner vers elle et valoriser cette moitié. Un billet de 500 francs, grand Dieu, c'était de l'argent en 1925. C'eût été pour elle le voyage sans retour, pour lui surtout. Mais la moitié d'un billet de 1000, c'était génial. On doublait la mise et le plaisir. Le danseur retournait le lendemain pour rapiécer la monnaie. Elle en trouvait d'autres. Jamais le même, à moins que... Pour les danseurs mondains de cette époque, l'argent qui sentait, c'était tout de même de l'argent. Et puis chez nous, c'est proverbial, l'argent n'a pas d'odeur. La mode du tango passée, la chambre d'hôtel lavée et mise en place pour d'autres sortilèges, Lady McCarthy mourut, mais demeura vivante pour moi dans l'idée que j'eus de vous, madame, pendant 25 années. Chaque fois qu'on prononçait votre nom devant moi, je voyais une poupée anachronique, levant ses yeux bordés de rimmel et tenant de ses doigts boudinés et bagués une tête ployée. La luxure à la mode de Caen. Le temps pour les enfants est une tragédie qui commence au sein de la mère, qui passe par le désordre des paroles adultes, déformées, ineptes, indéchiffrables, et qui finit dans le miracle de la chair. À l'âge d'homme, j'ai compris. J'eusse même été danseur mondain sous une lady. Je vous connais depuis par mon passage dans les brumes de 1950. Le cigare fumé à deux avec Madeleine, les cacahuètes sans leur étui mouillé de bière Guinness et l'œil exact. Vous êtes un morceau de spleen enfoui et mon carbone 14, comme disent les archéologues modernes, sera toujours daté ces quelques jours passés sous votre manteau du Nord, avec à votre doigt brillant comme des yeux de fièvre, Londres, Londres. Votre plus belle idée. Une ville est une idée, à la vérité. Quand on l'approche, quand on s'y donne, comme se donne une vierge. À une idée aussi, les vierges se donnent toujours à une idée. On découvre le monde de la parole, de l'écriture. On se dit que l'invention des rues, des filles, des marchands se fait à partir d'une géographie subjective. Longtemps, j'ai regardé un arbre et le créé dans mon regard. Les cartes de l'Atlas... Les cartes de l'Angleterre, madame, sont apocryphes. Elles sont un devoir de cadastre. La seule carte que j'ai de vous maintenant est tracée au fil d'une intimité que je vous ai volée. Les couleurs étaient anglaises, les parfums, les haltes dans la rue aussi, les taxis sortaient de moi, du plus profond de mon moi, comme d'un garage particulier. Ils sont beaux, madame, vos taxis. Un peu vieillots, et je pense au fiacre, et je pense à Verlaine et Rimbaud, cousus. J'habitais Tottenham Court Road, dans une rue dont j'ai perdu l'identité, et dans un hôtel tenu par un gros homme italien chez qui je gardais le privilège de mes nourritures terrestres qui n'ont jamais été jusqu'à ce jour qu'un complexe de spaghettis et de plats huilés d'olive. Dans cet hôtel où le restaurant s'achalandait en sous-sol, je gardais le contact avec le soleil. Un peu d'ail, un relent de ragoût à la tomate, cela me suffit à ne jamais m'expatrier tout à fait. Dehors, c'était le charme. Livré totalement à vous, ne sachant d'anglais qu'une version poussive très mal notée à mon premier bachot, j'étais vraiment l'étranger, l'autre, le rêveur de Méditerranée. Tottenham était vite désert le soir, une sorte de campagne macadamisée, une putain de couleur qui passait un peu après 10 heures, avec ses pattes d'araignée de passe, quelques taxis, des paroles confuses, et moi à la fenêtre, avec mon cogito et le dictionnaire de slang que j'avais acheté l'après-midi. Dans votre slang, je vous voyais dévêtu et capable du pire ou du meilleur. Mais, fidèle à mon langage secret, Villon jargonnait, moi aussi. Avec vos phonèmes abrupts, la vraie langue de l'homme est une langue pavée, inappréciable du vulgaire et sensible jusqu'au bout des ongles. Les mots griffent. Je disais tout haut à la fenêtre les mots privés, dont n'eussent que certains initiés des matins blêmes. J'étais un sacré pan sous votre étoile de fanal, madame, et l'ombre projetée sur la chaussée était une ombre de potence. J'eusse aimé mourir le lendemain à l'aube, supplicié. Un mot d'or et d'ordure à la bouche, et des filets de slang dans la semence que n'eût pas manqué de faire couler de mes profondes tanières la strangulation de chanvre. J'étais français à mon faucon. Là, j'eusse été britannique. Mon ombre bougeait par le vent, terrifiant la putain noire. Je m'endormais bientôt. Madeleine m'arriva, apportée par un oiseau de France. Un oiseau sans plumes, mais rapide. Quand elle fut dans notre chambre, je lui donnai quelques livres gagnés sous des projecteurs imbéciles. J'achetai une bouteille de whisky et lui racontai mon ennui. Avec elle, j'allais savoir qui vous étiez, de quelle brume vous enrouliez votre tamis, de quel paquet vous fatiguiez les docks, de quel stylet vous blessiez les pucelles toujours recommencées de Soho. Toute la mythologie de l'opéra de 4 sous, du Bigard's Opéra, comme l'écrivit John Gay, allait remontant mes fosses nasales. Vous dites Bigard, nous disons mendiant. Le cigare au bec, dans la rue, tous les deux, nous apprenions le rire, le vrai, l'énorme, l'indécent, celui qui donne le rictus aux malvenus, aux classes hautes de la société qui rentrent chez elles pour se soulager dans les lavabos ou dans les équations simplistes de l'œuvre de chair. Nous regardions les fenêtres closes, avec derrière les rideaux, les cris trop courts, les spasmes, le glou-glou des conduites de plomb, et la tristesse de Gauguin et ses questions absurdes. Qui sommes-nous ? Nous arrivions toujours trop tard au pub, à vos cafés réveil-règlement où l'on boit le whisky à la sauvette parce qu'il faut sortir très vite, non sans avoir bu jusqu'aux larmes, les gueules inconsolées de vos buveurs de bière nègre, de pale ale, étonnés de me voir mettre le cigare dans les lèvres de Madeleine, et je pensais au Hellgrup de Villon, et j'imaginais que la pale ale est une bière de gibet. Pendus à vos colibets, nous partions, je dis bien vos, puisque vous étiez, eux, les Anglais, gentils, propres, avec leurs femmes insipides, quand elles ne sont pas belles comme la plupart, et ouvertes et odorantes de cette odeur du lit, quand elles ressemblent aux femmes d'Apollinaire. J'en ai connu une en 48 à Paris qui avait une belle voiture, où ça ne sentait pas l'essence, mais le stupre. J'aime l'odeur du stupre. Oh, le mot heurté, cynique, humide, quand il remplace les parfums élysées. Un matin, nous prîmes le train à Kensington Station. Vos trains sont comme vos taxis, pas tout à fait dans le siècle. et j'aime que vous vous attardiez aux formes démodées dans tout ce que vous faites avec le fer, avec la pierre aussi, car vos maisons relatent un début de siècle qui n'ose pas s'aventurer dans le temps qui va trop vite, dans le béton hardi qui crève l'azur aujourd'hui, dans n'importe quelle banlieue lépreuse. Tenez, vous êtes un peu Churchill, trop vieux pour qu'on l'écoute, pas assez pour qu'on l'oublie. Nous prîmes donc le train ce matin-là via les Moors et les complexes de Mademoiselle Emily Brontë. Nous allions vers le hurlement d'un bon vent 19e, croissant ses tringles sifflantes sur une lande dont nous ne connaissions jusque-là qu'une interprétation hollywoodienne. L'épopée au cinéma, quand elle porte, vous conduit à la plus proche gare et vous incite à vous mettre en scène, à pénétrer l'image, ne fût-ce que pour voir de près M. Laurence Olivier et Mlle Merleau-Behron. Les acteurs, il ne faudrait jamais savoir qu'ils sont des acteurs et pouvoir les rejoindre sur les lieux du drame et leur dire, c'est bien, vous êtes mon Heathcliff, vous êtes ma Cathy. Cela dit, je ne vis plus dans la continuité du scénario. Je reprends à mon compte vos coucheries psychiques. Faites l'amour dans vos coulisses. Moi, je m'en vais dans l'auberge, au bas de la grange. Nous y fûmes. Une lande verte et des moutons noirs. Une hôtesse mi-grasse et des confitures de délices. Un vieil homme attardé qui disait tout le temps, comme une psalmodie, « A long time ago ». Ce devait être le fantôme de Chaucer. Je revois tout cela et j'entends crier le vent. Oui, crier, hurler. Nous partions vite, Madeleine et moi, dans le matin triste, et nous piquant de son givre anglais, nous partions en haut de la lande. Les Moors, les Moors. Et nous prenions l'apéritif de spleen dans la maison sans toit. Avec Heathcliff, et nous gravions nos initiales sur le bois mort. Il était seul à jouer au psychodrame et vomissant Madame Brontë de l'avoir enchaînée à des mirages. « Vous voulez tout savoir ?» nous disait-il. « Eh bien, Madame Brontë, c'était une masochiste. Si je l'avais sous la main, je lui planterais l'Angleterre dans le chiffre. Alors, je n'aurais plus de raison de ne pas être. Je naîtrais pour moi seul. » Et puis Cathy, c'était une littérature. Et moi, un marchand de terreur hugolienne, c'est dépassé. Le vrai roman, c'est le vôtre, Léo. Madeleine, amalgamé et réinventant le premier amour sous la houlette de cette vieille putain d'Émilie. Et du haut d'un catalogue de bruyères. Partez. Ici, ça sent la mort, l'Angleterre et la littérature. Retournez donc à Londres. Là-bas, au moins, quand le vent hurle, les maisons hautes finissent par le casser. Ici, c'est un accessoire de théâtre. Adieu. Nous revînmes à Londres. En passant à Leeds, je pensais à des couteaux. Dans le compartiment, il y avait encore de vos Anglais, madame, qui sentent le thé. Il y avait aussi un chien Airedale que nous avions acheté pour 12 livres à un fermier. Je me voyais riche. Un Airedale. Ça fait riche. Le train hurlait sur les rails loin des Moors. C'était la musique d'Heathcliff qui nous accompagnait. La campagne dehors nous menaçait de ses arbres frileux. J'étais désespérément français. Le chien ne mangeait pas. Un chien qui ne mange pas, ça nous retourne. Il n'était pas malade et faisait la grève. Il était beau et snob, comme un chien de grande fortune, et nous n'avions à lui offrir que notre amour, qui était grand, mais pauvre. Les chiens qui n'aiment pas n'aimeront jamais. 8 jours passèrent. Madeleine accroupie devant lui, avec des viandes mirifiques. Rien. Toujours rien. Il tournait sa belle tête de chien de berger. Encore la lande et la bruyère. Son poil était feu et brun, comme là-bas. Je décidai vite, Madeleine, à le ramener chez lui, dans sa brousse bronzienne, un jour ou deux, pour lui démontrer que nous n'étions pas des maîtres, mais des amis. Il ne voulut jamais être notre ami. Les vrais chiens n'ont qu'un seul amour. Il parvint à s'échapper de l'auberge où nous étions retournés. Les habitants étaient terrifiés, car l'Airedale est un chien qui, lorsqu'il ne garde pas les moutons, les mange. Et lui, nous le savions, avait très faim. Il était dans les Landes, avec Langogo. Nous tentâmes de le ramener. J'avais un os à la main, nous le vîmes. Il vint nous flairer à 10 mètres et s'enfuit à jamais. Pour nous, il était perdu. Le temps des chiens viendrait plus tard. Si je vous ai raconté l'histoire de Samy, c'est parce que vous aimez bien les chiens. Vous êtes un peu la môme chien. Chez nous, le chien est tabou. On ne le mange pas. Chez vous, on lui réserve une place dans le métro. Nous retournâmes en France, très vite, par la Flèche d'Or, comme au cinéma. On avait froid sans chien. Notre histoire anglaise s'arrête là. Nos souvenirs aussi. Nous sentions que nous n'étions pas chez nous. Samy nous l'avait dit. Par-delà les années, quand nous parlons de vous avec Madeleine, nous pensons à Samy qui doit être très vieux. Je n'aime pas parler de la mort, enfin pas trop. Pour nous, vous êtes Samy, que nous n'avons pas eu le temps d'aimer. C'est dur de n'avoir pas le temps d'aimer. On a bien le temps de travailler, de manger, d'écrire des lettres. Vous êtes pour nous à quatre pattes. Et c'est un compliment. Au revoir, madame. Un de ces jours, au Palladium.
Connais-tu l'Élysée, son palais de l'ordure? Une poignée d'enculés nous mène la figure. Et tu craches comme je pleure sur nos frères immigrés. Que porte la misère pour Sarkozy premier? Ouais! Chrétienne des ministres fascistes, moralité de chienne sur laquelle je pisse. Dans tes prisons de la mort, on flingue la misère. Mentalité de porc, Sarko des puissotières. Ouais! S'occupe des sans-papiers. Demain, c'est la police qui viendra te chercher. Univers sarkozien, symphonie pour les cons. Tu crèveras comme un chien au fond de ta prison. Ouais! Maréchal, si devant portefeu, la solution finale pour tous les miséreux. Et tu craches comme je pleure sur nos frères émigrés. Que porte la misère pour Sarkozy premier? Ouais! Ce palais de l'ordure. Une poignée d'enculés nous mène la vie dure. Et tu craches comme je pleure sur nos frères.
immigrés. Qu'importe la misère pour Sarkozy premier. Ouais.
Au bout de ton errance, tu éclaires ta nuit.
habits de lumière sont pas faits pour ta gueule. Au bout de ton calvaire, il n'y a qu'un linceul. Le soleil des voyous comme seul univers. La main sur le flingot, ta peau ne vaut pas cher. Tu dégoupilles une bière à l'ombre d'une copine. Ton frangin Dillinger qui te gueule cocaïne. Sur pavé parisien, c'est la môme aux yeux noirs. Un accord de guitare pour blesser ta mémoire. Y'a de la taupe à Pigalle du côté des Cravos. Y'a la mort qui se trimballe à l'ouest du Pécos. Les calibres sont prêts pour le bal des maudits. On envoie les bastos aux 12 coups de minuit. Un virolé du cœur s'éclate sur le pavé. Tu tires sur les étoiles complètement défoncées. Sous les néons blafards de la ville endormie. Il reste les bâtards, les enfants de la nuit. nivelle. Dans la lumière des phares, les ombres de ta vie, tu dégueules ton spleen, tu vomis ton ennui. Religion cathodique, la télé éjacule. C'est lui qu'on encule. La ménagère s'excite devant la boîte à con pour un ou deux crédits à la consommation. Je pisse à la bourse, on spécule sur la misère humaine. On crève dans les ghettos, l'amour est à la traîne. Un plaquin sans papier qui meurt d'indifférence au milieu des connards, ça sent mauvais la France.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Bonjour, donc après la voix charmeuse de Manique, Serge au micro, Nicolas. qui a des occupations, on ne pourra pas être avec nous, mais on a dans le studio Patrick, qui est déjà venu d'ailleurs plusieurs fois. Donc comme d'habitude, je vais vous lire une petite présentation que vous trouverez sur le site de l'émission, accessible sur un moteur de recherche. Vous faites Trou Noir en pluriel, Radio Libertaire. Et à partir de demain, vous aurez accès à toutes nos émissions depuis l'origine, à partir de demain, celle d'aujourd'hui, voilà. Donc, une petite présentation rapide, hein, avant d'échanger sur un sujet bigrement d'actualité d'aujourd'hui à moyen terme, à court terme, et à long terme, enfin, tous les termes du mot. Voilà, donc on aura l'occasion de parler de tout ça. Et j'imagine qu'on va y revenir, hein, heureusement ou malheureusement d'ailleurs, parce que c'est quelque chose d'assez grave qui risque d'avoir un certain nombre, qui commence d'ailleurs d'avoir un certain nombre de conséquences sur la vie humaine. Voilà. Donc, la techno-innovation est l'instrument indispensable de la logique du profit. Amélioration de la productivité, extension de la sphère marchande. L'intelligence artificielle, IA pour les intimes, qui tend à se généraliser dans des domaines de plus en plus larges, est le moteur de cette accélération exponentielle dans les sociétés industrielles. Le Forum économique mondial, je compte un certain nombre d'entre vous à ce que c'est, qui organise tous les ans une rencontre à Davos entre les dirigeants les plus puissants, les membres les plus influents de l'économie, de la politique mondiale, voire dans d'autres domaines d'ailleurs, l'a défini ainsi. Donc l'IA, système qui agit en détectant, en interprétant des données, en apprenant, raisonnant et en décidant de la meilleure ligne de conduite. À mon avis, c'est de leur point de vue à eux, mais en limite, mais bon, on en parlera. Klaus Schwab, le fondateur et maître de cérémonie donc du Forum économique mondial, l'affirme, citation, l'intelligence artificielle est l'une des technologies ayant le plus d'impact sur les entreprises, l'économie et la société. Elle est considérée comme l'un des moteurs de la quatrième révolution industrielle. Autre citation du même personnage, dans 10 ans, notre vie sera complètement différente, celui qui maîtrise cette technologie sera le maître du monde. Je ne sais pas si ce sera lui, non, il y a certainement concurrence. Donc l'IA s'intégrant aux machines les transforme en robots. La robotisation de notre monde est donc ainsi en marche. La cité idéale, entre guillemets, promise, est incarnée notamment par les smart cities. Réseau mondial de métropoles hyperconnectées, radicalement robotisées, et c'est notre invité qui le dit, qui seront green, clean et safe, avec des guillemets, parce que maintenant il faut un peu parler anglo-saxon pour être à la mode. Bon, ceux qui connaissent un petit peu l'anglais verront ce que ça veut dire. Il y aura certes des externalités négatives, entre guillemets, c'est une citation. Que de nouvelles innovations technologiques nous aideront bien sûr à mieux contrôler, dit les maîtres de Davos, bien sûr. Donc les maîtres du monde admettent cependant qu'il subsistera à l'extérieur de ce meilleur des mondes des surnuméraires qui n'auront pas su s'y intégrer. Les inadaptés et inutiles, les technocratiques et libertaires.